radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
Je commençais très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous emmène ce soir dans un pays imaginaire, sans frontières, accompagné d'un homme qui a pu, grâce à sa force intérieure et son entourage, dépasser son handicap qui aurait pu le conduire en hôpital psychiatrique. En effet, Joseph Tchovanec n'a pas été diagnostiqué assez tôt autiste Asperger. Aujourd'hui, malgré sa timidité, Joseph voyage à travers le monde et après le succès de son livre « Je suis à l'Est », il publie aux éditions Plon « Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez ». Comme vous pouvez le constater par ce titre, ce docteur en philosophie parlant une douzaine de langues a beaucoup, beaucoup d'humour. C'est un être délicieux, malicieux, un esprit hors du commun et quelle humanité!
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
La semaine dernière, j'étais au festival du film international sur handicap à Bâle. Et il y avait un film où il y avait un technicien radio qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Vous connaissez un peu le... Et donc lui, il avait un système. Lorsqu'il sentait qu'il allait dire un gros mot, il coupait le son pour lui et il pouvait gueuler en fait dans la régie et personne ne l'entendait. Et donc il avait poussé ça à la perfection. Bon, bref.
Vous avez beaucoup d'humour d'ailleurs,
oh,
par rapport à votre handicap.
Moi, je crois que la mission des personnes handicapées, c'est de remonter le moral aux gens dits valides. Quoi.
Votre handicap, finalement, c'est quoi? C'est de ne pas être comme les autres?
Le fait d'être japonais en soi, ce n'est pas un handicap, nous sommes d'accord.
Oui.
Mais si vous prenez un japonais isolé, vous le mettez dans une autre culture, là, ça sera embêtant. Mais être japonais en soi, ce n'est ni bien ni mauvais.
Donc vous êtes quoi alors?
Donc ça, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà l'enregistrement ou c'est juste...
C'est déjà l'enregistrement.
D'habitude, il y a des femmes, mais bonjour.
Non, je ne suis pas comme les autres.
Ah d'accord, non, c'est bien.
J'ai mon syndrome à moi, je ne dis pas bonjour.
D'accord, bon, j'avais ce syndrome-là également jusqu'à une date récente. Disons que je suis ressortissant de l'autistan. Peut-être que vous connaissez ce pays un peu éloigné, mais en tout cas, c'est un pays assez amusant, où on fait de drôles de rencontres.
Écoutez l'histoire de Joseph Tchovanec, une histoire réalisée et habillée par Simone de Poux, préparée par Corinne Valente, mixée par Jonathan Chiesa et Florent Beauvallet, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale. Bon voyage!
J'ai été un peu brutalement projeté dans un monde qui n'était pas forcément le mien, donc il y a eu des moments d'ajustage plus que compliqués, hélas.
Comment vous avez fait alors pour vous ajuster, vous adapter? Vous avez appris nos codes?
J'essaye d'apprendre des codes de comportement, ce qu'on appelle des codes sociaux, mais ceci est toujours très difficile, d'autant plus que les gens non-autistes, ou alors comme on dit chez nous, les gens souffrant de non-autisme sont assez bizarres, quoi. Ils ont parfois toutes sortes de manies, etc. C'est un peu quand on dit dans le milieu des personnes sourdes que les non-sourds parlent trop, et donc il y a toutes sortes, j'allais dire aussi, de clichés inverses qui circulent sur les gens dits normaux. Mais en fait, c'est quoi la normalité?
Exactement.
Qui est réellement normal?
C'est une question de point de vue.
Et il n'y a pas si longtemps que cela, une amie qui est psy, soit dit au passage, est venue me voir assez paniquée. Elle m'avait dit qu'elle avait fait mentalement la liste de tous ses amis et paraît-il, il n'y avait que 2 personnes normales parmi ses amis. Donc, je dirais que c'est plutôt bien, non, de fréquenter des gens un peu étonnants, parce que les gens normaux, finalement, c'est pas très rigolo.
Joseph Tchovanec, vous avez dû apprendre des phrases que vous appelez magiques pour vous ajuster. Alors, laquelle vous trouvez la plus absurde, en quelque sorte ?
Comment allez-vous, par exemple ? Je trouve que c'est très drôle. Parce que, d'une part, on attend une réponse stéréotypée. C'est-à-dire, ce n'est pas une réponse qui décrit réellement une situation. Et d'autre part, l'autre absurdité, c'est dans le verbe « aller ». Comment on fait la généralisation depuis un verbe finalement de mouvement tout à fait ordinaire et primaire vers quelque chose de plus abstrait, un concept social? D'où d'ailleurs la petite blagounette qu'on dit parfois dans le milieu du handicap physique. On ne dit pas comment ça va, mais comment ça roule. Je pense que ça peut déjà donner un peu à réfléchir. Une fois, un ami avec autisme nous avait dit « je ne mens jamais, sauf quand on me dit comment tu vas ». Je pense que c'est très révélateur aussi de, finalement, beaucoup de sous-entendus sociaux, de conventions sociales, dans ce qu'elles ont un peu d'absurde parfois.
Joseph, vous racontez souvent, comme vous dites, des blagounettes, vous avez eu beaucoup d'humour et on vous le reproche.
Malheureusement, certaines personnes n'ont pas beaucoup d'humour, mais je pense que ce sont surtout des personnes non handicapées. Ou alors handicapées faute de rire, on pourrait le tourner aussi comme ça. Mais la grande force, je crois, des personnes différentes, c'est qu'on a dû s'ajuster dans une société souvent assez hostile. On a dû devenir des espèces de laboratoires ambulants. Explorer, inventer soi-même des solutions qui ne nous étaient pas préécrites ou pas données. Et par conséquent, cela donne, je crois, souvent une vision un peu plus large des choses et souvent un humour assez, j'allais dire, remarquable. Et en la matière, la personne qui m'a le plus appris a indiscutablement été Amou Bouakaz, ancien adjoint maire de Paris et aveugle de naissance.
Avec qui vous avez travaillé.
Voilà. Qui avait une excellente compétence en matière d'humour. Cet humour qui permet de créer des liens humains au-delà de telle ou telle caractérisation médicale ou sociale ou culturelle. Le rire est peut-être ce qui est propre à l'être humain. Et à ce titre, dès qu'on réussit à établir un contact, j'allais dire, humoristique avec quelqu'un, c'est que véritablement le contact, dans tous les sens du terme, est noué.
Embrasse-moi avant l'hiver, avant le courant d'air, avant le pullover. Sur la pelouse début juin, dans la soirée sans fin, embrasse-moi pour rien. Même si ça fait loin, les premiers matins, si ça fait un bail, les premières pagailles, si ça fait une paye, ben baisse le soleil. Cet instant, avec mes cheveux blancs, embrasse-moi maintenant. Même si ça fait loin, les premiers matins, si ça fait un bail, les premières pagailles, si ça fait une paye, ben baisse le soleil. Le soleil.
Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Joseph Chovanec, d'où venez-vous?
Je viens d'Autistan, c'est donc une contrée un peu lointaine, ou peut-être pas lointaine, peut-être qu'elle commence juste en face de chez vous. Malheureusement, l'Autistan n'est pas un pays reconnu, et donc quand on est un peu ressortissant d'Autistan, on a quelques problèmes de visa, si j'ose dire.
Pour toutes les tâches quotidiennes, pour tout ce que vous voulez faire, vous avez besoin de ces visas?
De visas, mais vous voyez, le visa, c'est un agrément. Et c'est là que le problème se pose avant tout. Je pense que le handicap est à au moins 95% un handicap social, c'est-à-dire lié aux circonstances de la société. Et le fait d'être autiste en tant que tel, ce n'est pas un handicap, mais c'est un handicap quand l'autisme n'est pas connu. Et je pense qu'une société entièrement peuplée de personnes sourdes serait parfaitement viable. Et par contre, la surdité devient un handicap si vous êtes entouré de personnes qui, elles, entendent. Là, ça peut devenir compliqué. Mais ça marche dans tous les sens. Dans une classe où il y aurait, par exemple, une dizaine d'enfants avec autisme, un enfant non-autiste serait marginalisé. Il ne pourrait pas suivre, il serait perdu très vite. Mais en France, très très peu d'enfants autistes vont à l'école. Moins de 20%, le chiffre officiel est de 20%, je n'y crois pas. Moi, je crois que c'est beaucoup moins de 20%. Alors que dans beaucoup de pays, on peut presque atteindre les 100%. Donc il y a de la marge.
Dans votre cas, Joseph, vous, l'école, au départ, ça n'a pas été facile quand même. Vous avez eu des problèmes, par exemple à la récréation. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez compris que vous étiez différent.
Pour un enfant avec autisme, si rien n'est fait pour rendre l'école accessible, cet enfant sera tabassé lors des récréations quasi systématiquement.
C'est ce qui a été le cas pour vous. Oui.
C'est un enfant, quand on le tolère, on le laisse au fond de la classe. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que les enfants autistes sont très rapidement éjectés physiquement du système scolaire. Et avec toutes les conséquences qu'on imagine, est-ce que vous connaissez un enfant dit normal qui pourrait s'épanouir s'il n'a aucune éducation? C'est pas possible. Mais en France, on a beaucoup de mal à accepter cette idée. Et il y a encore peu, tout le monde pensait que les personnes sourdes étaient débiles. Mais les personnes sourdes ne sont pas plus bêtes qu'un autre, au contraire. C'est simplement que pendant des siècles, on n'a pas eu l'idée de leur proposer une éducation, ou plutôt de leur ouvrir l'éducation à laquelle elles avaient droit.
Vous, Joseph, vous avez su lire et écrire avant de parler?
Oui, mais c'est une configuration, je dirais, relativement banale chez les enfants, un peu bizarre. D'ailleurs, ça pose une question très intéressante. Les programmes de l'éducation nationale, sur quoi ils sont fondés, sur quel modèle développemental? Pourquoi est-ce qu'il serait obligatoire d'abord d'apprendre ceci, puis d'apprendre cela? Et pourquoi pas l'inverse?
Voyez, tout à fait. Oui.
Et on se rend compte que finalement, aucun enfant n'a tout à fait le modèle d'apprentissage tel qu'il est prévu par l'éducation nationale. C'est un peu ce changement culturel qui nous manque, je dirais gravement.
C'est d'ailleurs ce qui est très touchant dans votre premier livre, « Je suis à l'Est », paru chez Plon et préfacé par Jean-Claude Amezen, où vous racontiez bien cela, que lorsque vous étiez en maternelle, la maîtresse ne voulait pas vous laisser passer en cours préparatoire parce que vous n'aviez pas certaines capacités, alors que vous en aviez d'autres qui étaient sans doute aussi intéressantes.
Il est très frappant de voir les compétences que peuvent avoir des jeunes avec autisme. Mais sauf que ces compétences, en général, ne sont pas du tout prises en compte dans les grilles scolaires. Donc, finalement, elles n'existent pas. Et on se focalise toujours sur les difficultés que rencontrent ces enfants, comme tous les enfants. Et on oublie totalement les points forts que ces enfants ont. Quand vous travaillez avec des enfants autistes, même non verbaux, qui ont 5-6 ans, vous pouvez les faire progresser, mais à une vitesse pharaonique, je dirais, si vous avez une approche appropriée. Par exemple, si c'est un enfant de 5 ou 6 ans et non verbal avec psychotisme, vous pouvez tenter de lui apprendre une langue autre que la langue purement verbale, au hasard la langue des signes, la LSF. Moi je dis que la LSF ne devrait pas être réservée aux personnes sourdes. La LSF c'est une langue à titre plein qui pourrait avoir une bien plus forte présence sociale qu'il n'y paraît. Ou alors l'informatique. Il y a une blague qui dit que l'informatique a été inventée par et pour les autistes. Bon, je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai, mais quoique. Pour certaines personnes. Hein. Il y a quelques jours est sorti un livre « Sais-tu pourquoi je saute ?» d'un jeune japonais, Naoki, qui est toujours non-verbal. Il a écrit ce livre quand il avait 12 et 13 ans. Le livre a été écrit en montrant les lettres l'une après l'autre sur un grand tableau. Voyez, c'est une méthode de communication alternative. On voit toute l'intelligence, toute la sensibilité de cet enfant non-verbal qu'on croyait idiot ou stupide, alors que c'est l'inverse qui est vrai.
Ce qui est important dans votre histoire, Joseph Tchovanec, c'est que vos parents n'ont jamais vraiment accepté que vous ayez un traumatisme psychique irréversible. Pour eux, vous alliez arriver à sortir de ce mutisme et faire quelque chose de votre vie.
Malheureusement, il y a certains parents qui pensent que quand le spécialiste a parlé, que c'est comme ça, quoi. Alors que malheureusement, beaucoup de spécialistes ne connaissent pas bien le sujet. Et d'ailleurs, en règle générale, je dirais, dès qu'on fait un pronostic limitatif pour un enfant, c'est que c'est mauvais. Mmh. On ne devrait pas dire cet enfant ne saura jamais faire ci ou ne jamais pourra faire ça. C'est faux, quoi. Et c'est un peu pour cette raison-là que j'ai décidé aussi par provocation de devenir voyageur. Parce qu'on a le réflexe d'enfermer les personnes différentes, personnes autistes entre autres, dans des lieux fermés.
Mais vous avez été diagnostiqué tardivement. Parce qu'on a dit que vous aviez des problèmes d'alimentation. Quand vous étiez petit, adolescent, vous aviez de la dépression, que vous étiez hyper anxieux. Le terme autisme est venu beaucoup plus tard.
Comme j'allais dire, la quasi-totalité de ceux de ma génération, vous savez. Hein.
Vous êtes né en 1981.
Je suis le jumeau astral de Britney Spears, donc chouette. De décembre 81. Mais c'est notre seul point en commun. Je voudrais dire, malheureusement, le diagnostic pour ceux de notre génération a été trop tardif. On s'est un peu amélioré depuis, mais il reste des choses à faire. On estime qu'il y a environ 600 000 personnes avec autisme. C'est à peu près le même ordre de grandeur que de personnes schizophrènes. Vous voyez, donc il s'agit de thématiques sociales importantes. Ce n'est pas une ultra-minorité quelque part.
J'ai tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, ça, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, ne, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Joseph Tchovanec, vous parlez dans votre premier livre de votre passion au départ pour l'astronomie. Est-ce que c'est ce qui a facilité votre scolarité finalement, hein, puisque vous arrivez chez les gens, vous parliez de Alnitak, Alni, les trois étoiles en fait de la ceinture d'Orion, et on vous prenait effectivement pour quelqu'un qui parlait un langage d'un autre monde.
Je pense que finalement les étoiles qui sont très loin rapprochent les gens sur Terre. J'ai eu une grande phase de passion pour l'astronomie qui a duré longtemps. J'ai eu aussi d'autres centres d'intérêt plus ponctuels et j'en ai encore quelques-uns, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on n'a plus de centre d'intérêt, c'est qu'on est mort, quoi, c'est fini.
Alors vous avez quand même une scolarité à peu près normale, on peut dire ça.
Avec des absences qui duraient parfois un an, quoi. Mais
grosso modo, vous y êtes arrivé.
Je n'ai jamais été tout à fait viré du système scolaire, pour dire.
Vous avez eu votre bac, même si vous dites que prendre le métro était plus difficile que l'épreuve par elle-même.
Non, moi, je ne le recommande absolument pas à nos jeunes auditeurs, mais je suis allé au bac sans réviser.
C'est exceptionnel.
Je ne sais pas. Moi, par contre, ce qui me rendait absolument malade, c'était l'imprévisibilité des moyens de transport en commun. Ça, oui. Et le fait d'aller dans un lieu que je ne connaissais pas. Et donc, pour la petite histoire, j'arrivais toujours bien avant l'aube et j'attendais pendant des heures devant le bâtiment jusqu'à l'ouverture des portes et la première épreuve du jour.
Vous avez fait Sciences Po aussi, Joseph, et vous êtes devenu docteur en philosophie et vous vous êtes spécialisé pour les religions et les coutumes.
J'ai un centre d'intérêt pour le Moyen-Orient, l'Asie centrale, un peu cette région du monde-là.
Vous en parlez dans votre dernier livre, hein, Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez.
Oui.
C'est venu comment cette passion pour ces pays ?
Je ne suis pas né grand voyageur, bien au contraire. Il y a encore une douzaine d'années, prendre le bus sur trois stations était une terrible épreuve qui me rendait malade pendant longtemps.
C'est pour ça que c'est paradoxal.
Voilà, et c'est justement pour cela peut-être que j'ai décidé de devenir voyageur. Puis aussi parce que je me suis très vite rendu compte que finalement je n'avais pas forcément de place dans la société d'où j'étais issu. Donc j'ai aussi constaté que quand on partait en voyage, on était plus bizarre, on n'est plus autiste, on n'est plus curieux, qu'on est l'honorable voyageur, si j'ose dire, ou l'honorable étranger.
Vous parlez même de voyageothérapie.
Ça, je pense que les voyages peuvent être une thérapie pour les personnes différentes qui ne trouvent pas une place dans leur société d'origine. Peut-être qu'ailleurs, ils en trouveront une, mais aussi vice-versa. Je pense que beaucoup de personnes hautement névrosées, hautement tristes par la modernité pourraient trouver bien davantage à voyager, à partir. Ce voyage en tant que thérapie, ce ne peut pas être un voyage de confort. Je ne veux pas dire d'aller à Ibiza, à la plage, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'aller dans un pays qui est neuf, qui est stressant pour nous. Il y a tout un travail qui peut être un peu douloureux avant le départ, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on progresse, je dirais.
Vous dites d'ailleurs que les traités sur l'autisme ignorent en général la question du voyage.
Oui, C'est tout à fait triste. On a tendance à penser que les personnes avec handicap n'ont pas à voyager. C'est le principe d'ailleurs des centres. Voyez, un centre, il y a des murs, parfois des grillages assez épais d'ailleurs, et on vous dira, ici vous êtes en sécurité, on vous donnera à manger à heure fixe, restez ici. Mais ce n'est pas une vie humaine, je ne pense pas. Moi, j'ai la chance de visiter plusieurs fois par semaine des établissements divers accueillant toutes sortes de personnes différentes. On passe des moments géniaux avec ces personnes-là, mais avec beaucoup de tristesse quand on se rend compte à quel point l'établissement est isolé, par exemple, loin de tout, ou alors à quel point ces murs sont épais, quoi, comme si on avait des fauves là-dedans. C'est très impressionnant. Ça donne à réfléchir.
Vous écrivez dans votre livre que le voyage, mieux que nulle autre thérapie, rend obsolète les traumatismes passés. Ça a été votre cas alors? Vous avez oublié beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir?
Disons, pour le dire bêtement, si vous avez un voisin méchant, partez en Chine. On l'oubliera très vite, ce voisin-là, vous voyez. Mais je pense que plus généralement, le départ, c'est aussi l'opportunité de redémarrer dans d'autres circonstances, dans un autre cadre. Par exemple, quand je vais en Asie centrale, eh bien, je ne suis plus autiste. Et les gens ne trouvent plus ma diction bizarre. En France, quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui s'amuse soit à m'imiter, soit à se moquer de ma prononciation, que sais-je. Mais on ne m'a jamais fait ça en Asie centrale, par exemple. Pourtant, je dois massacrer le persan bien plus que le français. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant, la vertu du voyage.
Joseph Tchovanec, dans les trois dates que vous nous avez données, vous nous avez parlé de la fin de l'été 2001, où vous avez poussé pour la première fois la porte d'un psychiatre. Et à partir de ce moment-là, vous avez basculé, vous dites, dans un autre monde. Vous avez même évité l'internement, hein, faut le dire.
Enfin, j'ai été, disons, sous camisole chimique pendant 5 ou 6 ans à peu près. Pour rien, finalement. Il n'y avait aucune raison objective à cela et on n'a atteint aucun but avec cela, d'ailleurs, si ce n'est de briser un peu la personne. Et malheureusement, cela arrive à trop de monde. L'autisme, ce n'est pas une maladie. Vous voyez, ça ne se soigne pas à coup de médoc.
Et vous pensiez qu'au départ, vous étiez schizophrène?
Alors, moi, à l'origine, je ne pensais rien. Ce sont des étiquettes dont on m'a affublé, qui procèdent plus de l'ignorance, comme me l'avait avoué un ami psychiatre. L'asile n'a jamais guéri qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans les pays scandinaves, il est interdit par la loi depuis des décennies, d'ouvrir des établissements pour personnes handicapées. Ce qui sonne bizarrement, mais je crois qu'il y a une idée là derrière. Les personnes différentes, quelle que soit l'étiquette, ont leur place en liberté. Et c'est d'ailleurs très frappant quand vous venez dans certains pays scandinaves, par exemple, vous sortez de l'avion ou du train, vous voyez beaucoup de personnes handicapées dans les rues. Moi, je trouve ça très frappant dans le bon sens du terme. À l'inverse, vous avez certains pays où il n'y a pas de femmes dans les rues. Pourtant, les femmes existent bel et bien, mais sauf qu'elles sont derrière les murs ou que sais-je. Et il ne faudrait pas que ce type de situation soit la norme pour les personnes handicapées. Et je crains que, malheureusement, on a du travail à faire.
The God that was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veins
tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, now see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's bleeding down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No,
Pierre Planchon sur France Inter.
Joseph Chovanec, comment avez-vous trouvé la force de ne jamais vous résigner ?
La question ne se pose pas en ces termes-là. C'est un peu comme dans les climats polaires. Si on est fatigué, si on s'endort, on meurt. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas que je me suis motivé d'une manière spéciale à avoir du courage, de la force. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il n'y avait pas d'alternative. Pour moi, concrètement, la sortie de la camisole chimique a été un processus très lent. Moi-même, je n'osais pas trop dire non à ces éminents spécialistes. Et donc, le processus a été très lent, mais il s'est fait. S'il ne s'était pas fait, on ne se serait pas rencontrés, tout simplement.
Est-ce que votre collaboration avec Amou Bouakaz a été bénéfique ?
Pour vous le dire les choses brutalement, mais sans exagération aucune, en 2006, j'étais dans les poubelles de la société. J'avais été viré, y compris par les organismes censés s'occuper de l'emploi des personnes handicapées. Tout simplement, ce n'était pas prévu qu'une personne autiste soit même adulte. Hein. Les autistes, c'est des enfants. Quoi. Déjà, quand on part sur cette idée, on ne va pas bien loin. Tout à fait par hasard, deux responsables associatifs m'avaient demandé de les accompagner à une réunion à la mairie de Paris avec Amou Bouakaz.
Qui était donc le conseiller technique du maire de Paris.
Oui, ensuite devenu adjoint maire. Donc l'imprévu s'est passé, c'est qu'il a discuté avec moi pendant toute la durée de l'entretien. Et à la fin, il m'avait dit « je te garde ». Et comme ça a commencé une longue période de collaboration, mais aussi d'amitié.
C'était nouveau pour vous, ça, l'amitié ?
Tout à fait nouveau, je veux dire. Et puis, je vous avoue que pendant plusieurs années, j'étais torturé par la question, mais pourquoi ce monsieur très important, en plus il portait la cravate, pourquoi ce monsieur très important s'intéresse à un nul comme moi, quoi. C'est tout un processus d'apprentissage. C'est avec lui que j'ai, par exemple, appris à interagir avec les gens. Il m'a enseigné beaucoup de trucs au niveau de l'humour. Et puis aussi, nous avons, je crois, pas mal travaillé. J'étais essentiellement rédacteur de discours. Et ensuite, c'est très drôle quand vous voyez un politicard dire à la télé ou à la radio le discours que vous avez écrit. Quoi.
Donc là, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas nul. quand même.
C'est un processus très lent. Par moments, je crois encore être très nul, mais c'est un processus que les personnes autistes qui ont très souvent une très très mauvaise image d'eux-mêmes. C'est ça un gros problème, oui.
Joseph Chovanec, vous êtes docteur en philosophie, spécialiste dans les religions et les coutumes. Donc les voyages font partie intégrante de votre vie. Comment vous alliez votre peur des transports? Je me dis, comment il fait dans un aéroport? Alors, parce que pour vous, vous disiez tout à l'heure, hein, même le métro c'était compliqué, rentrer dans un restaurant c'est compliqué.
Alors, avant d'aller aussi loin, je dirais à l'aéroport, il faut commencer par le bus, puis par le train.
J'étais trop vite.
Oui, on raisonne par étapes. Voilà. Donc, déjà, pour prendre le train, par exemple, vous devez imprimer le décret sur le fonctionnement des chemins de fer. Vous devez l'apprendre plus ou moins par cœur, le garder dans votre mallette. De votre sac pour anticiper toutes les situations possibles et savoir que par exemple maintenant on se situe dans le cas prévu par l'article je ne sais pas combien alinéa 2 et donc comme ça on apprend la chose, mais je ne vous cacherai pas que l'état d'angoisse était énorme, à peu près comparable à celui que vous pourriez ressentir si on vous prenait maintenant et vous placez je ne sais pas sur quelle grande place animée de Téhéran, si vous ne connaissez pas du tout la ville et cette culture. Par exemple, j'avais tellement peur d'être en infraction que j'avais plusieurs tickets en même temps, quoi. Tout cela doit donner à réfléchir, mais c'est comme ça qu'on progresse. L'apprentissage s'est fait dans la douleur.
Donc vous avez réussi à maîtriser ces crises d'angoisse, d'anxiété ?
Il ne s'agit pas de maîtriser l'anxiété ou l'angoisse, mais il s'agit de bien choisir les situations où on va, de telle sorte qu'elles ne se produisent pas ou qu'elles se produisent moins.
Par exemple, dans votre livre, hein, vous racontez cette scène où vous êtes, puisque vous venez de parler de Téhéran, vous êtes en Iran, vous prenez un train pour aller vers l'est du pays, à la frontière afghane, et vous vous retrouvez donc avec deux jeunes Turcs. Vous n'étiez pas stressé à ce moment-là, anxieux ?
Si, tout à fait, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on découvre des choses nouvelles. J'ai aussi eu un fabuleux avantage, c'est que je n'étais pas à l'aise socialement dans ma culture d'origine. J'étais incité à aller ailleurs. Pour le dire un peu autrement, si vous le permettez, et ce n'est pas une figure de style, malheur à ceux qui sont trop à l'aise chez eux. Malheur à ceux qui ont une trop grande maison ou une maison trop confortable. Cette maison, elle deviendra un tombeau. Parce que précisément, quand on est mal à l'aise, quand on n'est pas accepté quelque part, c'est aussi une chance. Ça permet d'aller plus loin.
Joseph, dans votre livre, vous écrivez que le simple déplacement géographique n'est qu'une partie du processus. Le véritable procédé d'action du voyage, en tant que thérapie, est avant tout intérieur.
Mais tout à fait. Je pense que, par exemple, juste en face de chez vous, il peut y avoir une personne tout à fait différente. Mmh. Entrer dans cet univers-là, comprendre cette culture autre, eh bien, c'est déjà un voyage fabuleux.
Joseph Chovanec, comment vous vivez aujourd'hui? Vous êtes toujours chez vos parents?
J'habite chez mes parents, oui, comme la plupart des gens autistes, mais je voyage beaucoup. Donc finalement, je passe assez peu de nuits chez mes parents. Je suis une sorte de nomade. Je vais de ville en ville pour parler de l'autisme ou de la différence. Et cela m'a valu beaucoup de rencontres extraordinaires. C'est l'une des raisons un peu égoïstes pourquoi je m'obstine à continuer, malgré toute la difficulté de la chose. C'est que sinon, on ne rencontrerait pas des gens comme ça, des visages auxquels on songe plus tard, le soir, ou je ne sais pas.
Dans ces dates que vous nous avez confiées, vous parlez de 2024, dans 10 ans. Alors à quoi rêvez-vous pour dans 10 ans ?
Je rêve de moins en moins, mais je crains beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, pour les personnes handicapées, l'avenir n'est jamais tout à fait assuré, quoi. Beaucoup de gens, quand on leur dit « Où serez-vous dans 5 ou 10 ans ?» pensent à une carrière, par exemple. Bon, moi, je sais que de toute façon, je ne ferai aucune carrière. Ce qui peut sonner un peu déprimant, mais d'un autre côté, c'est aussi un grand avantage. Parfois, les gens me l'envient. vie d'ailleurs.
C'est un signe de liberté.
Sans doute, mais après, néanmoins, vient j'adore la question de la réalité, la question réaliste. Concrètement, est-ce que je vais pouvoir manger quelque chose, vivre quelque part dans une dizaine d'années? Franchement, je ne sais pas. Notre société occidentale et française en particulier n'est absolument pas prête à accueillir des personnes handicapées, surtout dans les milieux dits sélectifs.
Quel est pour vous le sens de la vie, Joseph Chovanec ?
Alors, si je peux faire un peu mon autiste,
allez-y.
Je dirais que étymologiquement, le terme sens, la racine indo-européenne, peut vouloir dire aller de l'avant. C'est l'idée de direction. On le trouve par exemple le terme français apparenté sentier. Ou le terme littéraire un peu oublié, une sente, quoi, donc petit sentier. Et ces termes-là qui sont liés au terme sens et qui montrent vraiment la route, le chemin. Le sens est un chemin. Et cela me fait toujours penser à cette grande figure à laquelle mon ami Jean-Claude Ameisen a consacré sa vie, à savoir Darwin. Darwin, avant de devenir ce grand scientifique ou théoricien, j'allais dire du sens de l'histoire, il est parti au bout du monde rencontrer différentes espèces animales. Donc ce sens de la vie, pas sa vie égoïste, moi seul, non, c'est plutôt la vie riche de toute cette diversité. Il y a un dicton que j'aime bien alors qui dit « plus tu parles de langue, plus tu vis de vie ».
Alors vous parlez 12 langues, donc vous vivez déjà 12 vies.
Oh, je ne sais pas, ça reste à vérifier. Mais en tout cas, ce qui m'accompagne dans la vie, c'est la mémoire de tous ces visages que j'ai eu la chance de rencontrer, la mémoire aussi de toutes ces histoires, souvent très cocasses, que j'ai pu vivre en rencontrant toutes ces personnes anormales qui finalement me soutiennent un peu, alors que le quotidien est finalement très terne sans cela.
Vous ne pensez pas un jour, Joseph, tomber amoureux ?
Ah, je ne sais pas, mais encore une fois, malheur à ceux qui pensent que leur vie est parfaitement balisée ou parfaitement planifiée. Ça veut dire que très bientôt, ça va mal se passer.
Merci infiniment, Joseph Chovanec,
merci beaucoup
d'être venu à nous.
Merci pour votre accueil.
Alors vous pouvez poursuivre le voyage en lisant les deux livres de Joseph Chovanec parus aux éditions Plomb, « Je suis à l'Est » et le tout dernier, « Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez ». Cette émission est à podcaster, partager, réécouter, je vous le rappelle, avec vos amis sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain, 23h15, pour une nouvelle rencontre tout aussi passionnante. Je vous souhaite une très très belle semaine. Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.